Bonjour, vous êtes sur le fil du fer sur Radio FM Plus 91 FM. Le fil du fer accueille pour la seconde fois Cristobal Desconnet et Adrien Rennes, deux amoureux de pop culture et de technologie. Adrien est community manager et programmateur au cinéma Le Diagonal de Montpellier. Cristobal est community manager et attaché de presse au Festival Radio France de Montpellier. Avec deux autres personnes, Megan Burkel et Alix Odorico, ils ont monté le site internet de podcast et de chronique Salut Salut Internet. Après une première émission centrée sur le parcours de Cristobal, le fil du fer s'intéresse aujourd'hui à celui d'Adrien. Dans la seconde partie de ce fil, Adrien et Cristobal parleront un peu plus de Salut Salut Internet. Bonjour Cristobal et Adrien.
Bonjour.
Hello.
Adrien, qu'avez-vous fait et que faites-vous dans votre vie professionnelle et associative ?
Dans ma vie professionnelle, je suis community manager, assistant de programmation au Diagonal. Et dans ma vie associative, vous l'avez déjà évoqué, je suis membre du collectif Salut Salut Internet.
Adrien, vous êtes né dans un village ardéchois d'Unières-sur-Eyrieux. Eyrieux, voilà, je pense bien.
Super.
Peut-être loin, un village peut-être loin du réseau de diffusion des films. Comment l'enfant et l'adolescent que vous fûtes, devint-il le cinéphile et le cinéphage de 26 ans que vous êtes aujourd'hui ?
C'est vrai qu'il n'y avait pas de cinéma là où j'étais, donc en fait à l'époque c'était beaucoup via internet que je voyais les films et l'achat de films en des DVD d'occasion comme ça, des piles et des piles de DVD que j'achetais toutes les semaines, à peu près une cinquantaine de DVD. Donc voilà, c'est comme ça qu'on devient cinéphile quand il n'y a pas de cinéma, c'est internet et c'est l'achat de films par occasion.
Vous avez quitté vos études en cinéma, suivies à l'université Paul Valéry, au bout d'une année. Vous m'avez dit qu'à la suite de votre arrivée à Montpellier, votre école de cinéma, c'était Le Diagonal et l'Utopia, et que votre école d'écriture, ce sont les romans d'Annie Ernaux. Qu'est-ce qui, dans le système universitaire, ne vous a pas convaincu ?
C'est que je m'y retrouvais pas, tout simplement. J'étais peut-être pas adapté à ce parce que c'est vraiment le gros truc, hein, la fac de cinéma. Il y a 500 personnes chaque année, surtout en L1. Donc c'est la grosse machine. Moi, je débarque de à Montpellier, donc dans une grande ville. Je suis complètement effrayé par tous ces gens. Je me sens pas du tout adapté, donc je pars vite changer de voie j'ai décidé que mon école de cinéma, ça serait les cinémas et puis les bibliothèques pour lire les bouquins qu'il faut quand même lire, quoi, quand on travaille dans le cinéma.
Comment êtes-vous devenu assistant programmateur de films au cinéma Le Diagonal et que fait un programmateur de films au Diagonal ?
J'ai été pris d'abord en stage pendant 2 ans. Je n'ai fait une première année de stage un peu comme ça par envie, où j'ai travaillé dans la communication. J'en ai fait un deuxième pour mon mémoire, donc sur 2 ans, pour mon master 2. Et après, j'ai été embauché suite à ces deux années de stage. Et qu'est-ce que c'est qu'être assistant de programmateur ? Je pense que les gens ont déjà compris, c'est de voir des films avant tout et de choisir les films qu'on veut montrer au public ou les films qu'on pense que le public peut être intéressé de voir. Donc c'est ça, c'est voir des films, les programmer, choisir les séances. Et comment on les fait vivre à travers des événements, des animations.
Et comment définiriez-vous le public ou les publics du Diagonal ? Quel est son goût ? Quelle est l'identité du cinéma Le Diagonal ?
Le cinéma Diagonal, c'est le cinéma d'art et essai du centre-ville montpelliérain. Donc c'est un public... plutôt branché culture, branché cinéphile, hein, quand même, un public plutôt âgé, il faut le reconnaître. Hein. Voilà, c'est ça, typiquement un public du Diagonal, le public du Diagonal.
Et les films, pour en dire plus, quels sont les films que vous voyez? Combien de films est-ce que vous voyez par an ou par mois? Voilà, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans l'intimité du travail du programmateur?
Par mois, on regarde une quarantaine de films, je pense.
Et quels sont les moyens?
Alors, on regarde ça en salle le matin, en lien sur nos ordinateurs, nos iPads, le soir à la maison. Voilà, ça se fait, c'est comme ça. On regarde soit les films en amont, avant de faire une programmation, un mois à l'avance, on essaye de choisir ce qu'on va sortir le mois prochain. Donc, il faut tout voir, presque, et on essaye de le faire. C'est compliqué parfois, mais...
Et quel est le lien que vous pouvez faire entre programmateur et puis aussi chroniqueur et puis aussi critique de cinéma?
C'est le cinéma, le lien. C'est autant de manières de parler de cinéma ou d'être dans le cinéma de façon différente, mais toujours au service ou dans le jus du cinéma. Donc c'est ça le lien de tout. C'est toujours être dans le bain du cinéma.
Adrien et Cristobal, je vous laisse quelques minutes libres pour nous parler de pop culture, puisque c'est une de vos passions, et ce qui constitue en partie vos imaginaires respectifs. Cristobal,
qu'est-ce que correspond à la pop culture pour moi? Donc c'est un univers gigantesque qui commence dans les années 90 pour moi. C'est un univers que j'ai découvert à la télévision, donc pour commencer, avec tout cet esprit... qui nous liait tous en étant enfant. Ça a commencé par Pokémon, par exemple, dans la cour de récré. C'était tous les enfants, tous les copains qui parlaient de cartes Pokémon, de Pokémon. On se donnait tous rendez-vous le samedi pour le regarder, parce que c'était le samedi matin sur TF1, il me semble. Et donc, pour moi, ça, c'est le début de la pop culture qui a commencé. Notamment, encore une grande date pop culture pour moi, par exemple, c'est la sortie de La Menace Fantôme en 1999. Après peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années de silence, Star Wars qui revient, c'est quand même quelque chose qui rassemble un certain nombre de fans qui ont vu les anciens Star Wars, mais qui n'ont jamais vécu une sortie Star Wars. Et chaque année, je me rappelle avec Adrien, quand on a eu cette annonce de la nouvelle trilogie, de la nouvelle saga qui est sortie Star Wars, ben on y est allé le premier jour et on a vécu ce qu'on a aimé vivre avec un tas de personnes. C'est de voir un Star Wars au cinéma, par exemple. Donc pour moi, c'est ça la pop culture, c'est un phénomène qui lie les gens, un phénomène qui lie beaucoup de gens, une génération entière, qui est notre génération en fait. Et ça passe aussi par cette génération-là, ça passe par le jeu vidéo, et le jeu vidéo est en train de devenir quelque chose de un phénomène qui est de masse, c'est-à-dire que 80% des jeunes jouent à des jeux vidéo, que ce soit sur une console de jeux vidéo, que ce soit sur un PC ou un Mac, ou tout simplement que ce soit sur un téléphone portable. On s'en rend pas assez compte, mais c'est ça, quoi.
Et pour vous, Adrien, donc la pop culture?
Oui, déjà tout ça, moi j'aurais même tendance à dire, déjà pour moi la pop culture elle commence, pour moi hein, surtout, ce que l'école, ce que les institutions interdisent. Donc Cristobal a parlé des cartes Pokémon, de Pokémon, on pourrait parler des objets tech, tout ce que ces institutions considèrent comme nocif à l'apprentissage ou qui ont un discours contre ça parce que ça ne rentre pas, c'est pas Daniel Pénac, quoi. Donc j'ai quand même tendance à dire que c'est presque politique la pop culture, hein. C'est tout ce qui n'est pas dans ces institutions là. Maintenant ça commence à rentrer, on voit que par exemple des magazines comme Le Point ont une vraie page pop culture, mais je me dis voilà, c'est un espace de rejet des institutions, d'une élite, hein, quand même, sur des contenus culturels qui mériterait quand même d'être approfondi justement par ces institutions, mais qui l'ont toujours rejeté. Donc c'est aussi un acte, bon, allez, un acte politique, c'est une grande formule, mais c'est un positionnement en tout cas politique.
Nous y reviendrons tout à l'heure dans la seconde partie. Et donc pour la pause musicale, nous écoutons votre choix, Adrien, et votre choix, c'est The Black Eyed. Oh, je ne sais pas, vous pouvez le dire.
Les Black Eyed Peas.
Merci, don't lie. Yeah. La 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 la. Sa. Hey baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now you said your trust is getting weaker, probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more, but after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature, put your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you.
No, 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 baby, no, 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 don't lie.
Said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She's feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things. Are drained.
Cause a lie and a lie and a little lie. Now your emotions are drained.
No, 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 baby. No, 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 don't lie.
Vous êtes sur Radio FM+, c'est le fil du fer. Cristobal Desconnet et Adrien Rennes sont au micro du fil du fer, donc pour parler sur deux émissions, et c'est la deuxième émission, de leur vie professionnelle et du site de podcast et chronique pop culture Salut Salut Internet. Je m'adresse à vous deux. Durant l'émission précédente, vous nous avez permis, Adrien et Cristobal, de découvrir les origines ainsi que ceux qui a motivé la création de votre site Salut Salut Internet. Pourriez-vous nous rappeler ce qu'on trouve dans ce site et nous dire comment il se porte aujourd'hui ?
Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce site ? On retrouve un certain nombre de contenus, du podcast essentiellement, mais on retrouve aussi des articles écrits dans les podcasts. Nouvellement, on avait créé l'année dernière un espèce de fil d'actualité de ce qu'on aimait, de ce qu'on voulait partager, un fil informatif d'actu sur la technologie, sur tout ce qui était jeux vidéo essentiellement, et qui s'appelait l'Actu Express.
Picture Express,
ouais.
Ou Vidéo Express.
Et Vidéo Express, je te laisse.
Ouais, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on partait soit d'une image qui faisait actualité, ou on faisait une vidéo qui faisait actualité, et c'était des formats vraiment réseaux sociaux pour parler d'actualité, ou pour parler d'objets, de choses qui ont existé, dont on rappelait l'existence, ou on rappelait le contexte de création, ou on rappelait un motif sympa. C'était une sorte de bonbon comme ça, réseau social. C'était, là aussi, ça fait partie du laboratoire de comment on fait de l'information, comment on essaie d'inventer des choses pour parler des choses, justement.
Vous considérez-vous comme de nouveaux journalistes, ou dans un nouveau journalisme, ou...
Personnellement, non.
Très bien. Vous m'avez dit changer chaque année de ligne éditoriale pour Salut Salut Internet. Qu'est-ce qu'une ligne éditoriale et quelles sont celles de Salut Salut Internet depuis sa création ?
Je pense plus que de la changer, on la renforce peut-être et on la change pas forcément de manière radicale. C'est une recherche perpétuelle et du coup. C'était peut-être Adrien, tu peux en parler
Oui, on la renforce, il n'y a pas de ligne éditoriale chaque année. En fait, c'est juste qu'est-ce qu'on fait cette année, quels outils on va investir, quel format on va investir. C'est surtout ça nos questionnements, nos problématiques de annuelles, quoi. Donc ouais. Mais c'est aussi en fait un choix éditorial, parce que quand on fait du contenu plus pour des plateformes audio, on s'adresse à un autre public que si on fait du contenu plus pour les réseaux sociaux. Donc ça aussi, je pense qu'on est en train de l'apprendre. C'est quelque chose qui peut paraître évident quand je le dis, mais en fait, parfois, faire un podcast sur Facebook, ça n'aura aucun impact. Sur une plateforme comme YouTube, ça aura plus d'impact. Enfin, c'est plein de choses comme ça qu'il faut qu'on maîtrise et qu'on justifie.
Qui compose l'auditoire de Salut Salut Internet ?
L'auditoire, c'est essentiellement des gens qui ont notre âge, qui sont nés dans les années 90, qui nous ressemblent intimement. Et l'auditoire aussi, maintenant, depuis pas très longtemps, depuis qu'on commence à faire des partenariats avec des partenaires, notamment notre partenariat en date le plus récent, c'est celui de Loco, un nouveau média de Montpellier. Qui ont un auditoire qui est un peu plus âgé et on s'exerce justement à ça depuis un an, à parler à cet auditoire qui est entre 30 et 60 ans, j'ai envie de dire, alors qu'avant, justement, on avait un auditoire bien plus jeune.
Nous écoutons à présent un extrait d'un de vos podcasts. Pourriez-vous nous le présenter ?
Là, on va écouter un podcast sur la PlayStation 2 où on est en talk, on est réunis tous les 4 ou tous les 3, je sais plus. Et on va parler à ce moment-là de la PlayStation 2 parce qu'elle fêtait ses 20 ans. Et donc ça, c'est un format très classique dans le milieu du podcast, c'est un talk. C'est même un format en fait radiophonique, hein, tout simplement. Donc voilà, je sais pas exactement, je crois qu'on va écouter le début, je sais. Donc ça sera plutôt l'intro, désolé, vous entendrez que ma voix. Mais voilà.
Allons-y.
Salut, salut Internet. Vous écoutez Salut, salut Internet.
Salut salut chers tous et chères toutes, aujourd'hui on parle de la PS2, la seconde console de chez Sony sortie en 2000, qui a vu grandir un bon paquet de joueurs, la boîte noire de sa forme lisait tout aussi bien les jeux les plus fous comme GTA et les DVD les plus importants comme Matrix. Machine de guerre qui fera ravaler les lunettes de soleil de Mario Sunshine sur GameCube et qui fera venir dans le salon les derniers joueurs de StarCraft. Plus qu'une machine brute de technologie, la PS2 amène avec elle beaucoup de codes de l'univers du jeu vidéo qui resteront. Hein, on parle aussi bien de la communication qu'à son lancement spectaculaire, de ses jeux monstres et de ses licences qui traînent encore dans les hits actuels.
Qu'est-ce qui, dans cet extrait, fait entendre l'esprit de Salut Salut Internet ?
Le choix du sujet, je pense, hein, le fait qu'on parle de la PlayStation 2. Voilà, c'est ça, c'est un objet qui a 20 ans, et on va parler pendant quasiment une heure de l'impact que ça a eu sur notre vie d'enfant, et sur notre vie d'adulte, d'adolescent, et aujourd'hui, comment ça a pu... influencer notre personnalité, nos goûts et mais vraiment quelle influence ça a eu, quoi. C'est ça en fait en ce sens, c'est du salut salut Internet.
Et la PS2 donc a eu quelle influence sur vous?
Une influence de joueur de salon, d'une première console pour certains. et d'une découverte de certains jeux comme GTA par exemple, qui est un jeu qui est extrêmement populaire aujourd'hui et qui a commencé ses débuts, on va dire ses grands débuts sur la PlayStation. Et c'est ça qu'on essaye de partager, de dire que voilà, c'est la PS2, c'est sur le papier ça a 20 ans, mais aujourd'hui ça a quand même été une grande console.
Non, oui, moi je...
D'accord, je pensais que vous aviez quelque chose à rajouter. À propos de la construction, je ne sais pas si c'est le mot exact à donner, de cet extrait, donc il y a la musique, il y a le fond, il y a la forme. Comment est-ce que ça se marie? Comment est-ce que vous construisez à partir d'un sujet où vous dites telle musique, j'aurais besoin de telle musique, etc. Comment ça se passe?
C'est au feeling, ça.
Ça, c'est au feeling. C'est Adrien qui écrit son intro pour cette émission. C'est Adrien qui propose un sujet. Il écrit son intro. Moi, derrière, on va enregistrer. Et je vais faire quelques racolages, des montages. Et puis, on va réécouter ensemble et on va choisir ensemble une musique.
Mais ça, c'est quelque chose de la radio, par exemple. Moi, ce que j'aime vraiment en radio, c'est les lancements d'émissions. En tant que vraiment passionné de radio, j'en écoute beaucoup, j'en consomme beaucoup. Moi, ce que j'aime dans la radio, c'est les lancements d'émissions. Et un lancement d'émissions, pour moi, c'est déjà le moment où on va savoir si on va rester ou pas avec cet animateur et avec ce qu'il nous propose. Donc, c'est un truc qu'on aime vraiment travailler à Salut Internet. Donc c'est un choix qu'on a fait de faire des lancements plus longs, alors que certains podcasts commencent direct, et c'est bien aussi, c'est vachement bien, mais ça c'est un goût particulier de faire des lancements comme ça.
Donc un lancement, c'est comme la première phrase d'un roman,
c'est oui, ça. C'est exactement ça.
De quoi a besoin aujourd'hui Salut Internet pour perdurer et se développer?
Je dirais des ressources, du partenariat. Pour se développer, on a besoin de financement aussi, parce que on a envie de, notre projet mûrit de plus en plus et on a envie d'écrire, de faire un contenu plus, encore plus professionnel déjà, plus poussé sur un long terme, sur une saison entière par exemple. D'avoir cette régularité, de pouvoir prendre du temps pour ça, vraiment prendre du temps, c'est important en fait pour ce type de contenu. Et c'est vrai que, en tout cas pour ma part, on passe sur un niveau d'écriture qui est plus le même. C'est un peu plus important.
Oui.
Et quels sont, vous parlez de subventions, quels sont les partenaires, quelles sont les institutions qui peuvent vous aider? Je crois aussi que vous avez gagné, vous avez participé à des concours de podcasts et que vous en avez...
Oui, on a participé à un concours, alors je ne sais même plus...
C'est la métropole de Montpellier,
oui,
je crois.
Oui, voilà. Mais bon, c'était plus sympa à faire. Après, je ne sais pas quelles répercussions ça a eu, tout ça. Mais...
On a eu de la visibilité. En tout cas, on était lauréat sur la troisième position. On a quand même pris des risques en faisant quelque chose d'assez cynique, de fun mais cynique. Enfin, je sais plus. Mais on a pris beaucoup de risques et au final, ça a marché, quoi. Parce qu'on a pas mal travaillé dessus. On a travaillé deux jours entiers à quatre. On était dans une salle. On a fait des enregistrements. Oui.
Mais c'était exact. C'était la métropole, donc le jury. Et on a fait quand même peur à beaucoup de jurés parce qu'on arrive avec notre univers un peu à la Hot Wheels, quoi, hein, pour ceux qui ont la référence de cette publicité. Ouais. Et on a fait peur à la moitié du jury et on a parlé à la moitié de l'autre jury. Donc ça, c'est drôle. C'est-à-dire qu'en fait, y a des gens à qui ça parle complètement et d'autres à qui ça effraie parce que c'est pas du tout leur culture.
Est-ce que vous considérez que les institutions, le pouvoir politique, le ministère de la Culture a compris le développement du podcast en France?
Je pense qu'ils commencent à peine à comprendre cette manne culturelle.
Moi, j'ai l'impression que c'est surtout les radios qui ont compris ça. France Inter, aujourd'hui à des vrais podcasts natifs, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la grille de programmation. Et ça leur permet de faire des choses mais vachement rafraîchissantes, hein, qui ne sont pas de l'ordre de 6h à 9h. Il faut qu'il y ait un contenu qui soit plutôt péchu. Le soir, on est sur du live. Non, là, on a des podcasts qui sont beaucoup plus libres, qui ne sont pas pris par l'entité des plages horaires radiophoniques. Donc, elles ont compris ça et elles jouent ça à fond et c'est vachement bien. Après, le ministre de la Culture et de l'Information, je pense qu'ils essayent de jouer le jeu, mais ils sont sur plein de terrains en même temps, donc ils y vont à tâtons, quoi.
Revenons sur votre terrain. Est-ce que vous enregistrez, vous écrivez depuis chez vous? Est-ce que vous avez un studio? Quels sont vos lieux? Quelles sont vos habitudes? Quelles sont les conditions de travail pour faire aboutir Salut Internet et ses contenus?
Oui, on a un studio mobile en fait, tout simplement, qui nous permet
c'est
de.
C'est vrai qu'on l'appelle comme ça, le studio mobile.
On a des micros, une carte son, on a pas mal de trucs comme ça, de beaucoup de câbles qui sont reliés à l'ordinateur et ça nous permet déjà de faire une partie, j'ai envie de dire, un film du travail qui est l'enregistrement, mais la plus grosse partie du travail, c'est vraiment la réflexion, la documentation et l'écriture, la synthèse de ce qu'on a lu, de quoi on s'est inspiré, cette documentation qu'on va apprendre à piocher, apprendre à réfléchir, puis d'écrire tout ça après, de retranscrire tout ça. Peut-être Adrien pourra plus en parler que moi, mais je pense que c'est le plus gros du travail avant de passer, on va dire, à l'enregistrement qui prendra au final peut-être 10% peut-être d'une réalisation du podcast.
Oui, c'est ça.
Dans les deux dernières minutes qui nous restent à peu près, si la question, Cristobal et Adrien, vous m'avez dit que pour votre génération, et en plus elle est lourde la question, le divertissement remplit le vide politique, le divertissement est notre culture politique. Ça m'a beaucoup marqué. Vous avez moins de 30 ans, Salut Internet, est-il un geste politique de votre part?
Je pense que j'ai répondu quand même un peu à la question. Franchement, je pense que... Évidemment que c'est politique. Moi, je conçois pas les choses de manière apolitique. C'est pas possible. Il y a déjà un choix du sujet. Il y a déjà une manière de faire les choses. On est une association, on n'est pas une start-up. On avance comme on peut avec l'argent qu'on nous donne, avec l'argent qu'on nous donne pas. C'est un choix politique. On parle pas du dernier livre d'Éric Zemmour. On parle de la PlayStation 2, quoi. Parce que je pense que ça parle à tout le monde. On parle pas de ce qui se passe à l'Opéra Comédie, on parle de ce qui se passe dans le jeu vidéo à Montpellier. Donc ça constitue un terrain politique mais énorme en fait, hein, parce que il y a vraiment des choses à faire et des gens à mettre en valeur ou des sujets à mettre en valeur comme ça face aux institutions qui nous dictent ce qui est culture ou ce qui ne l'est pas.
C'était donc la deuxième émission du Fil du Fer consacrée à Cristobal Desconé et Adrien Reyn et leur site de podcast. Oh, c'est dur à dire à la fin. Leur site de podcast et de chronique culturelle web. Salut Internet.